Avec Léa Salamé pour parler ce matin de la réforme des retraites, nous recevons un économiste dans le grand entretien du 7-9. Il dirige le département d'économie de l'École normale supérieure. Vous pourrez évidemment dialoguer avec lui dans une dizaine de minutes. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Sinon, passez par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Les contours de la réforme des retraites se précisent et on va vous faire commenter les nombreuses annonces qu'on a prise sur Inter ce matin, mais quelques questions générales et de principe, quelques questions philosophiques pour commencer, parce qu'on a entendu beaucoup de choses ces dernières semaines, des vérités assénées par les uns et dénoncées comme des fake news par les autres et vice-versa. Le brouillard est épais, on a besoin d'y voir plus clair. Sur cette réforme, Daniel Cohen, vous avez eu une formule, une réforme universelle des retraites n'est pas nécessairement une réforme équitable. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là.
Oui, moi je pense qu'en effet c'est la question centrale. Le gouvernement dit cette réforme elle est juste parce qu'elle est universelle, un point cotisé donnera le même droit à la retraite partout, donc circuler, imposer ce principe et la justice jaillira. Quand vous expliquez à un enseignant que ça veut dire concrètement que sa retraite va perdre 25 à 30%, on ne voit pas quel est le principe de justice qui peut être évoqué pour le justifier. Un instituteur en France est notoirement sous-payé par exemple vis-à-vis de ses collègues allemands tout en travaillant davantage. On lui dit ce point de départ qui est vaguement compensé par une retraite plus favorable, on va retirer l'élément de compensation pour revenir à un principe d'universalité. Toute l'erreur du gouvernement, je crois, philosophiquement, il y en a beaucoup d'autres après dans le détail, elle vient de là, de penser que cette réforme de la retraite était juste et que donc elle allait imposer en quelque sorte ce principe de justice à des gens qui voient bien que pour eux, ça veut juste dire perdre par rapport à la situation actuelle.
Quand Jean-Michel Blanquer dit hier à ce micro que les profs, que c'est une double bonne nouvelle, je le cite, pour les profs et les enseignants, au contraire, d'abord, ça va accélérer la hausse des rémunérations des profs, et deuxièmement, ce sera inscrit dans la loi qu'ils n'y perdront pas parce qu'ils vont recevoir des primes. Est-ce que c'est audible ou pas ?
Non, ça ne l'est pas. Parce que inscrire dans la loi qu'ils vont recevoir des primes qui vont compenser la perte, on a envie de se dire, mais à ce moment-là, pourquoi faire toute cette histoire ? Le montant
parce
dont
parce qu'il n'y a pas que les enseignants.
D'abord, d'une part, mais pour rester juste sur les enseignants, puisque en effet, c'est la catégorie qui est la grande perdante de cette réforme si elle était appliquée à l'aveugle au nom de ce principe d'universalité. Les enseignants n'ont pas de primes et ils ont un régime de retraite indexé sur le dernier salaire, 75% du dernier salaire. Donc, faire une indexation sur toute la vie, c'est par définition leur faire perdre. Bon, très bien, on peut s'engager dans un processus de revalorisation et ce serait certainement une bonne chose. Mais ayons en tête ce dont on parle. On parle, puisqu'il y a une perte de 25 à 30% de la retraite, au fond, si on voulait compenser par des augmentations de salaire les revenus des enseignants de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte au niveau de la retraite, ça veut dire une augmentation de 25 à 30%. On est heureux de la prendre, mais c'est quelque chose d'assez considérable. Ça ne pourra pas se faire, enfin, sauf avoir une baguette magique du jour au lendemain. Donc, c'est dans la durée. Pourquoi les enseignants, aujourd'hui, feraient-ils confiance à un gouvernement qui ne cesse, en réalité, de chercher des économies budgétaires ? Donc, c'est un pacte de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants sont prêts à le signer pour renoncer à un système qui, aujourd'hui, pour eux, est parfaitement simple et stable ? À voir, il faudra des sacrées garanties pour les convaincre que, oui, ils ne seront pas les perdants.
Dans le grand débat de ces dernières semaines, Daniel Cohen, on a pu entendre du côté des syndicats, Philippe Martinez, le patron de la CGT, dire qu'il n'y avait pas besoin de réforme des retraites en France, qu'il n'y avait pas besoin d'une retraite à point, car la France a aujourd'hui le meilleur système de retraite au monde. Alors, est-ce vrai ?
Si c'était vrai, on n'observerait pas une telle anxiété des Français par rapport à la retraite. Si on rembobine le film, une des raisons pour lesquelles une évolution du système de retraite est souhaitable, c'est que les Français sont individuellement très inquiets parce que ils ne s'y retrouvent pas. Ils n'arrivent pas à faire le décompte de ce qu'ils ont gagné ou pas. Il y a un tiers, 30% de polypensionnés, c'est-à-dire des gens qui ont cotisé à plusieurs caisses. On peut commencer dans la fonction publique, travailler ensuite dans des professions libérales, terminer salarié. Tout ça est profondément anxiogène. Donc, redonner de la sécurité pour libérer les Français de cette anxiété indue en réalité, parce que le quantum de retraite en pourcentage du PIB est à peu près assuré et garanti, quels que soient les scénarios qu'on peut faire à l'avenir. Ça, je pense que c'est important. Est-ce que ça veut dire passer à la moulinette toutes les professions comme on est en train de le faire maintenant ? Je crois que non. Je crois qu'il y a une voie plus simple et raisonnable pour y parvenir.
Est-ce que la réforme à points, vous trouvez ça bien ou pas ?
Moi, je
trouve... le papier, c'est-à-dire basculer du système qu'on a aujourd'hui, on obtient des trimestres de cotisation et il y a 42 régimes spéciaux, régimes particuliers. Est-ce que basculer vers un régime à points où, au fond, chaque heure travaillée, et notamment pour les jeunes, chaque heure travaillée ouvre la possibilité à des droits immédiatement. Est-ce que ça, c'est une bonne solution ?
Aller dans cette direction, c'est une bonne chose. Le faire comme le gouvernement l'annonce, je crois que c'est une mauvaise chose. Il y a beaucoup de choses qu'a fait le gouvernement qui ont ajouté à l'anxiété qui existait déjà au lieu de la résoudre. Une des plus importantes, à mon avis, c'est cette idée qui a été aussi circulée au départ et sur laquelle on est en train de revenir, heureusement, qui était qu'une des vertus de ce système à points, au-delà de la transparence dont vous parlez, c'est qu'il avait une espèce de vertu d'autorégulation. En fait, la valeur du point à l'équilibre donnerait toujours ce qu'il faut pour que le système de retraite soit à l'équilibre financier. Ça, c'est un peu l'interprétation que par anticipation, François Fillon en avait donnée. Très bien, parce que comme ça, on pourra couper les retraites sans avoir à le dire aux gens, parce que le point d'équilibre s'ajustera toujours. C'est une autre idée, avec l'idée d'équité dont je viens de parler, profondément fausse. Ce système, comme les autres, comme Agir Carco en son temps, et aujourd'hui encore, a besoin de régulation. Il a besoin qu'on pilote ce système parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
Voilà, parce que des points, Daniel Cohen, il en existe déjà, vous l'avez dit, à l'AGIRC Arco. Là aussi, il y a débat. Philippe Martinez dit que ce point a déjà baissé. À l'AGIRC Arco, le gouvernement dit que non. Alors, a-t-il baissé ou pas déjà ? A-t-il varié, fluctué ?
Non, il a varié, il y a des ajustements, mais je pense que c'est le modèle quand même. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage avec les syndicats, les représentants du patronat, l'État, enfin bref, il y a un contrôle du système qui fait qu'on est capable de faire des arbitrages qui soient gérés socialement en phase de chocs qui sont prévus ou imprévus. Donc ça, c'est une autre chose très importante qu'il faut dire. Il y a des réserves aussi qui sont accumulées. Donc, il faut voir que ce système ne nous protège pas des aléas de l'existence.
Le point peut baisser. Le gouvernement répète inlassablement.
Je ne dis pas que
c'est ça l'angoisse. Une des grandes inquiétudes des Français, c'est demain, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une grosse crise financière. Est-ce que ce point va baisser ou peut baisser ou il va baisser ça s'est passé en Suède,
voilà,
où il a baissé.
Bien sûr, mais ne devrait pas baisser. Encore une fois, c'est l'objet d'une régulation. Ça dépend aussi du type de crise auquel on est confronté. Mais là, aucune des simulations qui sont faites aujourd'hui par le corps ne prévoit une explosion des dépenses de retraite. Au contraire, on voit que dans 3 scénarios sur 4, la part des retraites dans le PIB ne cesse de baisser. On est autour de 14%. Dans tous les scénarios, sauf un où la croissance serait à 1%, où ça se maintient à peu près à 14%, ça baisse. Donc, si pilotage, il peut se faire, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il peut aussi accorder des valorisations. Mais je pense que ce qu'on oublie dans ce système par points, c'est que l'arme, si je puis dire, des cotisations qui pourraient être augmentées en cas de coup dur ne doit certainement pas être abandonnée. Et là encore, j'ajoute, équité, ça ne l'est pas. Autorégulation, pas davantage. Voilà les erreurs qui ont fait que cette réforme qui devait réduire l'anxiété des Français, en réalité, est en train de produire l'effet exactement inverse, à quoi s'ajoute, je crois, l'erreur fondamentale du gouvernement d'avoir voulu faire une retraite, j'ai envie de dire, plus grosse qu'il n'est capable de la gérer, en harmonisant non pas seulement les régimes privés entre eux, mais aussi le privé et le public. Là, on voit qu'il a eu une ambition démesurée par rapport même à sa capacité politique aujourd'hui d'agir.
Un point factuel sur la Suède que citait Léa à l'instant. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon disent que le régime suédois a conduit à appauvrir 90% des femmes et 70% des hommes. Est-ce factuellement juste ou pas, Daniel Cohen ?
Franchement, je ne sais pas. Il y a eu une énorme crise en Suède dans les années 90, à peu près au moment où le système a été mis au point. Et justement, les Suédois sont partis de l'idée qu'il était autorégulateur. Ils ont été obligés immédiatement après de corriger le système. Donc, il faudrait regarder dans le détail. C'est 90% de combien ? Bon, par rapport, encore une fois, à une situation qui a été frappée par une crise dans les années 90, comparable à celle qu'on a connue dans les années 2008. Mais moi, pourquoi je plaide, c'est que ce système ne renonce pas à l'idée qu'on puisse augmenter les cotisations, qu'on puisse jouer sur les paramètres, bref, qu'il soit régulé comme notre système de retraite l'a toujours été. Encore une fois, l'idée d'une autorégulation est simplement absurde.
Daniel Cohen, si on en vient maintenant aux annonces très probables du Premier ministre tout à l'heure à midi qui fera son discours, mais on les annonçait déjà en exclusivité sur France Inter ce matin dans le journal de 8h avec Cyril Graziani et avec Gilles Legendre avant vous, c'est-à-dire la grande idée pour faire avaler la pilule, pilule en gros et calmer les gens, c'est l'entrée en vigueur graduelle de cette réforme des retraites. Je répète, elle rentrera en vigueur pour les jeunes dès 2022, puis ce sera pour la génération 75 en 2025 et, exception pour les régimes spéciaux et les cheminots notamment, ce sera la génération 85 qui est concernée. Est-ce que cette entrée en vigueur graduelle est une bonne idée pour calmer la colère?
Non, moi je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Soit le régime est bon et on le fait, soit il n'est pas bon et on ne le fait pas. C'est à peu près aussi simple que ça. Dans les annonces que vous me faites, il n'y a rien qui lève, par exemple, l'incertitude sur les enseignants, sur ceux dans la fonction publique dont le nouveau statut sera clairement plus défavorable que celui qui est en vigueur aujourd'hui. Moi, si j'avais un conseil à donner au gouvernement, ce ne serait pas ça. Il est trop tard pour que je sois entendu, mais on va voir ce que le mouvement social va dire. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui qu'Agir Carco ont fusionné, il y a moyen de faire un système pour le secteur privé dans lequel le régime général et le régime d'Agir Carco soient mieux articulés les uns aux autres, pourquoi pas autour de ce système de retraite par points, à condition de bien comprendre ce que veut dire les taux de remplacement pour les retraites les plus basses. Il y a une réflexion à avoir. Donc moi, si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est de faire cette réforme comme il faut, avec le paramétrage, avec le pilotage dont on vient de parler, pour le secteur privé. Et qu'on harmonise bien
Agir Carco. Donc on ne touche pas aux régimes spéciaux, c'est ça votre conseil?
Ni les régimes spéciaux, qui ne sont pas vraiment l'essentiel du problème, mais surtout la fonction publique dans son ensemble, y compris les enseignants, et qu'on réfléchisse au cœur du problème qui est, non pas la fonction publique dans son ensemble, mais les polypensionnés. Je le disais au départ, ce qui fait qu'on a besoin d'une réforme, c'est que les gens qui sont polypensionnés, qui commencent dans le public, qui vont aller dans le privé, qui vont être profession libérale puis salariés, ils ne s'y retrouvent pas. C'est ça le cœur du problème. À vouloir faire un système universel, on s'aveugle aux raisons pour lesquelles on fait ça. Donc, faisons le secteur privé, voyons si on peut fusionner les indépendants, les professions libérales et un nouveau régime général qui articulerait les deux. Réfléchissons aux polypensionnés de l'État. On peut tout à fait imaginer que pour les polypensionnés de l'État, on prenne celui des deux régimes qui est le plus favorable. Ce sera sans doute souvent le régime privé. Et puis, à partir de là, voyons où
on s'en fait. C'est la salariée privée qui se font avoir.
Pourquoi ils se feraient avoir ?
Parce que vous dites en gros, c'est eux qui passent à la retraite à point. C'est-à-dire que si on continue à sanctuariser les fonctionnaires et les régimes spéciaux.
Mais pourquoi non ?
Ce serait ça.
Mais pourquoi faudrait-il revenir sur le statut des fonctionnaires quand ils ne sont pas polypensionnés ? Au nom de quelle idée de la justice immanente il faudrait qu'un enseignant soit traité comme un médecin ? Il n'y a pas de raison. En revanche, je ne veux une réforme, et c'est la raison pour laquelle au départ je suis favorable à une évolution. Je veux que quelqu'un qui commence dans un hôpital comme fonctionnaire et qui ensuite passe en profession libérale, je ne veux pas qu'il y perde. Je ne veux pas que ce soit un frein à sa mobilité, y compris qui lui permettrait de revenir dans le secteur public. Donc, faisons un focus sur les polypensionnés, créons un régime qui leur permette de choisir celui des deux qui est le plus favorable, et à ce moment-là, on aura vraiment atteint l'objectif de cette réforme, retirer de l'anxiété à ce système et permettre les mobilités que ce système actuel ne permet pas toujours d'accomplir.
Léa le disait, les jeunes y entrent en 2022, les futurs quinquas en 2025, pour les régimes spéciaux, les cas particuliers, c'est plus tard encore. Et précisément, Daniel Cohen, est-ce qu'avec tous ces cas particuliers, le régime dit universel sera vraiment universel ou un nouvel empilement ? Avec une nouvelle architecture d'empilement.
Il y aura un empilement dans le temps. Donc ça, c'est sûr que à horizon des 30-40 prochaines années, en réalité, on a rajouté autant de régimes qu'actuellement. Mais encore une fois, on voyait bien que le gouvernement aurait cette tentation pour faire passer la pilule de reporter. Mais il passe à côté de la question centrale qu'il aurait dû se poser lui-même. Donc il va ajouter, c'est votre question, Nicolas, il va ajouter de la complexité au système actuel de rassurer les gens. Le point de départ, c'était de retirer de l'anxiété. Je change de métier plusieurs fois, est-ce que je sais où j'en suis ? C'est à peu près aussi simple que ça, et cette question centrale, le gouvernement, malheureusement, me semble-t-il, l'a totalement perdue de vue au nom d'une idée de la justice qui fait qu'en réalité, on rejoue le match de 95, on est revenu à la chasse aux prétendus rentiers que sont les régimes spéciaux. Pour ces populations-là, c'est tout simplement inacceptable.
On l'apprenait ce matin également, la retraite à taux plein d'un minimum de 1 000 euros serait enclenchée dès 2022. Est-ce un progrès social,
oui,
cette mesure-là, Daniel
C'est un
Cohen.
Progrès, mais là encore, c'est des mesures à la va-vite. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut dire, oui, aucune retraite à taux plein, ce qu'on voudra, ne sera inférieure à 1000 euros. Et puis après, il faut lisser les évolutions. Il faut faire quelque chose comme le RSA qui fasse qu'on monte progressivement de 1000 à 1002, qu'il n'y ait pas de perte en ligne. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas assez cotisé pour arriver à 1000, tout ce qu'il a cotisé est perdu dans cette trappe de 1000. Donc moi, je voudrais un système plus fluide sur le modèle du RSA, encore une fois, mais individualisé à la situation de chacun. Vous avez cotisé un certain nombre de points dans cet exercice, ça vous donne moins que 1000, on va vous donner un complément, mais qui va lisser vers 1002, 1003, de manière à ce que, comme encore une fois dans le RSA, mais avec la retraite plutôt qu'avec l'activité, vous puissiez passer d'une situation à une autre. Là encore, faire un couperet à 1000, en un certain sens, ça veut dire que toutes les vertus qu'on a assignées à ce système, tous les points cotisés vaudront quelque chose, ne vaut pas pour les petites retraites. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui montre qu'on a été trop vite en besogne.
Alors, on y va sur l'autre grande annonce de la matinée. L'âge pivot est retenu. Il y aura donc un âge pivot qu'ils sont en train de transformer. Ils vont appeler ça l'âge bonus-malus. Ils ne veulent pas du terme âge pivot. Donc, âge bonus-malus à 64 ans. C'est confirmé. C'est le chiffon rouge pour la CFDT. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison de dire bah, il va falloir le financer et donc il va falloir travailler plus longtemps et donc il faut un âge pivot.
Mais non, encore une fois, quand on regarde les simulations du corps qui a été créé pour ça, dans aucun scénario à horizon 2025-2030 et dans un seul scénario sur quatre à horizon 2070 et encore, c'est à la limite, la part des retraites dans le PIB n'augmente. Les réformes qui se sont multipliées depuis les réformes Balladur ont produit ce résultat qu'aujourd'hui, on sait que la part des retraites dans le PIB est stabilisée, voire en déclin, encore une fois, dans trois scénarios
oui,
sur
mais,
quatre.
Mais les comptes seront déficitaires.
Ils seront déficitaires selon une convention comptable qui consiste à savoir comment imputer la part des responsabilités de l'État vis-à-vis de ses propres fonctionnaires. Quand on regarde, encore une fois, ces simulations qui ont été utilisées, la part des dépenses ne bouge pas. La raison pour laquelle il y a un déficit éventuel, c'est le régime de la fonction publique. Donc ça veut dire, est-ce que l'État sera garant à 100% de son régime de retraite
enfin, ou pas. On ne peut pas faire ardoise magique, Daniel Cohen, quand il y a des déficits qui sont annoncés.
Mais ça n'est pas des déficits qui sont liés à l'augmentation des dépenses, ce sont des déficits qui sont liés à des baisses de cotisations, liées à l'hypothèse que l'on fait sur la manière dont l'État augmentera. Mmh. Tout le débat qui a commencé dans les années 90 avec la réforme Balladur, c'était si on ne change pas les retraites telles qu'elles sont calculées aujourd'hui, on va passer de 10 à 20%. Ça, c'est un débat légitime. Jusqu'où veut-on dépenser en pourcentage du PIB pour solvabiliser les retraites?
Allez.
À partir du moment où cette part ne bouge pas, c'est un faux débat. Juste un point sur l'âge pivot.
Et parce la parole aux auditeurs.
Et la parole aux éditeurs, c'est promis. Ce débat sur l'âge pivot, c'est la troisième erreur que le gouvernement a commise. La beauté de ce régime par points, qui faisait partie des raisons pour lesquelles, je crois, la CFDT l'a défendu au départ, c'est que vous commencez tôt, vous pouvez partir tôt, parce que ce sont des points qui mesurent la durée de cotisation. C'était une nouvelle manière de concevoir les choses. Ça permettait pour partie de corriger les inégalités d'espérance de vie. Vous partez tôt, vous démarrez trop, vous partez tôt. Ce sont souvent les professions les plus fragiles qui font ça. Donc, ça permet de corriger les inégalités d'espérance de vie. À partir du moment où on met un âge pour tous, on perd cette vertu du système et on le rend inégalitaire en réalité, alors que, encore une fois, toute l'idée était de le rendre plus juste.
Allez, vous avez la parole, Jackie. Bonjour et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, ma question était la suivante. On parle beaucoup de solidarité pour la réforme des retraites. Et je me pose la question de savoir pourquoi on veut encore faire porter uniquement la réforme sur le coût du travail, hein, et non pas sur la totalité des revenus, qu'ils soient fonciers ou financiers, avec une exonération d'une base relativement large pour les revenus jusqu'à 5000 euros par mois, ce qui fait 60 000 euros par an.
Merci Jackie pour cette question. Daniel Cohen vous répond.
Oui, alors l'idée de départ, c'est que la retraite, c'est du salaire différé. C'est très important parce que quand on dit le coût du travail est trop élevé en France à cause des cotisations sociales, parfois on parle de charges, ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations, c'est du salaire différé. Aux États-Unis, vous devriez payer pour vous-même, pour vos retraites et vos dépenses de santé, votre salaire inclurait évidemment le coût qui doit être mobilisé pour ces différentes services. Donc l'idée que ce soit du salaire différé, je crois, est bonne et c'est la raison pour laquelle ce sont des cotisations assises sur les salaires ou sur les revenus du travail qui sont mobilisées. Maintenant, En effet, il y a beaucoup de dispositions qui relèvent de la redistribution. Dans le système dont je parlais, une retraite minimum à 1000, pensée dans mon idée sur le modèle du RSA plutôt que comme un couperet, là on peut tout à fait au contraire considérer que c'est de la redistribution, c'est de la solidarité, et il faudrait en effet faire une part plus nette pour ce qui relève du salaire différé, c'est un régime pur, et deuxièmement ce qui sert à financer les dépenses de solidarité. J'ajoute qu'on dit 14%, j'ai répété plusieurs fois que la part des dépenses était 13,8 aujourd'hui, mais il faut soustraire la part que les retraités eux-mêmes payent pour leur propre système. En net, ce serait moins que ça, ce serait autour de 12 et quelques. Donc en fait, les retraités contribuent déjà indirectement à leur propre système.
C'est le plus difficile à couper
de
l'histoire.
Oui, exactement. Mais Martine a la parole.
Alors si c'est Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Merci à vous. Voilà, moi je ne suis pas mathématicienne, je ne suis pas non plus économiste, mais je pense que le fait de calculer la nouvelle retraite telle que le veut le gouvernement sur l'ensemble de l'activité des salariés aura forcément comme conséquence une baisse des pensions. Je voulais savoir si ça n'aura pas comme conséquence de tenter les salariés, même de les inciter à aller compenser dans des placements dans les assurances. Parce que nous avons quand même l'exemple de M. Delevoye aujourd'hui, qui est vraiment le VRP de ses assurances. Donc j'aurais bien voulu avoir une réponse. Merci à vous.
Merci Martine pour cette question. Daniel Cohen vous répond.
Oui, alors ça fait partie du débat qu'il y a eu dès le départ, quand on a commencé à réfléchir à ce système de retraite par points. Le fait que ce soit sur toute la vie plutôt que sur les 25 meilleures années, en effet, ça pose la question de savoir quelles sont les qualités redistributives de ce système. Moi j'avoue au départ que j'ai été très inquiet du fait, quand on nous a raconté cette histoire, que ça allait créer des inégalités profondes pour ceux qui, dans leur vie, ont eu une dizaine d'années d'absence, ils ont perdu leur emploi, ils ont eu du mal à retrouver un emploi à proportion de leurs compétences, des choses comme ça, et on voit là qu'il y a des gens qui vont souffrir, il faut y être très attentif. L'argument qui est donné et qui semble vrai en moyenne, c'est que le nouveau régime va favoriser ce qu'on appelle les retraites plates, celui qui est toute sa vie à SMIC plus quelque chose, relativement aux retraites des cadres qui sont plutôt ascendante, on démarre bas mais on finit très haut en prenant les 25 meilleures années. Au fond, on favorise sans le savoir les cadres. Donc c'est ça le débat, ce qui fait que en moyenne, ce système sera sans doute plus redistributif que l'ancien, mais derrière la moyenne, il y a des cas particuliers qui vont souffrir. Il faut absolument y réfléchir.
Et les assurances alors ?
Les assurances, le système, dans la mesure où la part des dépenses, encore une fois, je reprends mes 14 points de PIB, ne va pas changer, relativement au système actuel, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça va changer. Il y aura toujours une incitation pour ceux qui le souhaitent de vouloir faire plus que ce que donne le système actuel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement, je crois. Maintenant, pour des gens qui sont dans des trous de carrière au milieu, ça m'étonnerait que les assurances viennent les chercher pour leur donner les moyens de refinancer leur retraite. Donc, en réalité, les assurances sont plutôt procycliques, si je puis dire. C'est-à-dire que quand ça va bien, ils vous aident, et quand ça va pas bien, ils ne sont pas là. Donc, je ne suis pas sûr que même si elles le souhaitaient, elles pourraient faire le travail dont vous parlez très justement, c'est-à-dire d'aller voir dans le détail, ceux qui vont être les perdants en bas de l'échelle sociale.
Eh bien, merci Daniel Cohen d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous dirigez le département d'économie de l'École normale supérieure.